Abbess et Falcourt présentent Le Petit Paquet. Regardons ce qui est là!
Ben,
c'est
Mathieu Poulin
en personne!
Hein? C'est-tu les trois originaux?
The boys are back!
Tu sais, je me souviens dans les tout premiers épisodes du Petit Paquet, là, je finissais presque chaque épisode en disant « Hey, ça passe-tu vite quand on s'amuse? » Ben, je vais vous dire, les gars, les deux dernières années ont été longues en tabarouette parce que sans vous, à mes côtés, pour faire de la radio, parler de lutte, c'était pas aussi amusant.
Ah, puis Mathieu, tu nous as manqué énormément. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on t'a eu avec nous autres parce qu'on a fait des épisodes, quelques-uns, moi et Stéphane, ici et là. Oui. Premièrement, ben, en public, félicitations pour la naissance de vos enfants, des beaux
gentil.
Jumeaux.
Ben oui, c'est un petit contretemps dans ma gestion du quotidien.
Deux nouveaux membres de la famille Paquet.
Oui. Exactement. Donc, deux petits jumeaux qui arrivent bientôt à 11 mois, bientôt l'entrée à la garderie. On vit des choses de grand. Et j'avais vu, tu en avais visiblement déjà parlé dans un épisode où j'étais pas là parce qu'il y avait des gens sur Facebook qui s'étaient mis à faire des suggestions de noms.
Pour, ah oui, on voulait un nom de tag team, c'est vrai, je me souviens.
C'est ça.
Oui.
Puis, je lisais ça avec un sourire en coin et il y avait quelqu'un, que j'avais trouvé ça génial, avait proposé un nom de faction avec moi dedans, et donc l'écurie, parce qu'on est des poulains, je trouve ça merveilleux.
Je ne sais plus
le nom de la personne qui avait suggéré ça, mais voilà, je t'aime, je te mets sur mon testament.
Ah, c'est magique, ça, les futurs champions par équipe mixte, là, fiers représentants de l'écurie, j'aime
exact.
Ça.
All right,
I love it. Stéphane aussi, tu as du gros nouveau, toi, qui s'en vient. Toi, c'est pas une niveau d'enfant, parce que ça, la tienne est...
Très grande.
La tienne est plus grande. Sauf que là, grosse annonce cette semaine, le retour de la lutte à RDS avec la All Elite Wrestling Dynamite qui va être présentée tous les mercredis soirs à RDS pour y aller là, rapidement. On va être en direct à tous les soirs. Si l'antenne RDS ou RDS2 le permet, on va être à la télé. Sinon, l'émission va être diffusée en soirée, mais vous allez quand même pouvoir l'écouter en direct sur le web, sur RDS Direct. Ce n'est pas compliqué. Vous allez sur rds.ca, il y a une option en direct. Puis là, vous devez vous loguer avec votre câble, les infos de votre câble de distributeur. Mais si vous êtes abonné à RDS, que ce soit avec Bell ou avec Vidéotron, vous allez y avoir accès en direct à toutes les semaines, même quand la grille horaire ne nous permettra pas. Fait que Stéphane, comment tu te sens là une semaine, en fait, t'as même pas une semaine du début du show.
Même pas une semaine. Écoute, ça fait, nous autres, on le sait, ça fait quand même longtemps, on s'est assis sur cette nouvelle-là. Ça fait, écoute, ça doit faire quoi, 2 ans qu'on picosse pour avoir ça, qu'on essaie de chercher des ouvertures, qu'on se fait dire non, qu'on veut le faire, puis qu'on veut montrer aux gens de RDS que ça vaut la peine, puis là, on est comme tellement content. Tu sais, on le savait qu'on l'annonçait cette semaine. C'était comme, OK, c'est mardi que je peux le dire. Là. Je peux faire une publication sur Balcourt. Je vais pouvoir faire des vidéos. Tu sais, on l'attendait. Puis là, c'est très, 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 très concret. Et tu sais, là, je ne veux pas tomber en mode où ce qu'on offrait avant à la télé, c'était moindre. C'était complètement autre chose. C'était un autre produit. C'était le fun de faire de la lutte à la télé. Mais là, c'est comme si j'embarquais dans une Cadillac. Là. Tu sais, c'est... On avait une belle voiture avant, mais là, on a une belle voiture de luxe. On présente All Elite, qui est un super produit. On le présente en direct, qui était le nerf de la guerre.
Pour la première fois au Québec, de la lutte en direct depuis comme les années 50,
c'est incroyable.
Il a fallu qu'il fouine les archives. Là, le bon Pat Laprade, avec ses vieux documents poussiéreux, a sorti des chiffres. C'est jamais arrivé. RDS n'a jamais fait ça. Ils n'ont jamais... tenter le coup avec la lutte en direct, c'était logistiquement compliqué, il y avait des droits d'acquisition. Là, les astres se sont alignés, on est motivé pour le faire, Frank, ça aide beaucoup. Tu sais, à force de nous entendre faire les pitchs, ils ont finalement dit « OK, les gars, allez-y, essayez-les ».
C'est sans tomber dans l'inside baseball, moi, je pitch depuis day one de All Elite. On s'est fait dire non souvent pour tout plein de raisons. Puis là, tout est tombé dans les bonnes chaises au bon moment pour que finalement, on soit prêt à se lancer là-dedans. Donc, je pense que tout le monde, on est très excité.
On s'est fait dire oui. C'est ça qui est le fun, de se faire dire oui.
Mm-hmm. Comme vous l'avez souligné, le fait que ce soit en direct, c'est particulièrement excitant. Mais tu sais, depuis que j'ai appris cette nouvelle-là, c'est sûr que mon regard sur les shows hebdomadaires a changé et je suis bien plus attentif à... la difficulté que doit représenter le fait de commenter en français en direct une émission comme ça où on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Vous n'allez pas avoir d'avance, bon, il va y avoir tel événement qui va se passer. Là, c'est vraiment, vous êtes un peu dans le siège des spectateurs normaux, mais vous devez assurer la traduction en direct. Donc, je suis sûr que tu vas être excellent, Stéphane, mais je ne voudrais pas être à ta place parce que je serais vraiment ses nerfs.
Écoute, je pense que c'est une belle nervosité. Tu sais, là, c'est comme le défi, c'est tu le vis en tant que spectateur, mais il faut que tu le communiques en même temps que tu le vis.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est un exercice quand même particulier parce que je ne suis pas un très grand communicateur de mes sentiments. Donc là, c'est de mettre des mots sur comment le public reçoit ce qui arrive à l'écran puis de le rendre intelligible aussi. Ça va être ça le gros défi parce que tu sais, en faisant la promo un petit peu, en grattant dans les détails, tu te rends compte que All Elite, d'un, c'est jeune, puis à regarder les commentaires des internautes, All Elite est quand même méconnu, même chez les irréductibles de lutte. Là. Il y a beaucoup d'amateurs de lutte qui regardent ça juste un peu à distance, puis ils ne sont pas familiers à 100% avec qui est quoi. Puis je pense que notre gros défi là, des premières semaines, ça va être de... Comment dire, c'est d'écrire les premiers chapitres de l'histoire, mais d'une histoire qui est en cours depuis 3 ans.
Puis ça va prendre une période d'adaptation aussi, juste pour le rythme de la chose. Comme on dit, il y a déjà plein de gens qui ont exprimé des opinions sur, sur quand les gens doivent parler ou pas. Puis c'est ça, en télé, c'est tu t'en sors pas, peu importe. N'importe quel show télé, tu vas avoir la moitié des gens qui vont préférer une manière, l'autre manière. Ça, c'est pas évident, mais tu sais, Benoît était extrêmement bon en animation, puis je suis assez confiant que très rapidement, vous allez trouver un air d'aller qui va fonctionner puis qui va être agréable à regarder.
Puis, tu sais, de toute façon, l'objectif, là, même si on n'est pas... tu sais, on fera pas plaisir à tout le monde, c'est sûr. Il y a des gens qui vont aimer ça, d'autres moins. Mais je pense que la bonne nouvelle que personne ne peut contredire, c'est que là, ce qu'on fait, c'est qu'on met All Elite accessible à un auditoire qui n'a peut-être pas TSN, n'a peut-être pas du streaming, n'est pas familier avec comment aller chercher de la lutte en anglais sur le web. Là, tu sais, si tu es juste un habitué de la RDS, puis c'est ça que tu veux dans la vie, tu veux juste ouvrir ta télé et écouter de la lutte, bien, c'est là qu'on va aller te l'offrir. Puis même si, oui, à la télé, ce ne sera pas toujours en direct, la version sur RDS direct, on va la pousser beaucoup parce que c'est simple. Il y a même des télés intelligentes qui te permettent de juste l'écouter dans ta télé. C'est comme...
Ce sera pas compliqué.
La télé n'est plus forcément la télé. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est live de 8 à 10. Vous allez avoir des façons de le voir live de 8 à 10 si vous payez un abonnement à RDS. Et même si vous n'êtes pas abonné à la télé, puis vous voulez juste All Elite en français, il y a des façons de s'abonner juste numériquement à RDS. On est rendu là. Et c'est ça que moi, je trouve ça super excitant parce que c'est comme, hey, on fait du contenu, on fait de la lutte, on le fait live. L'écran sur lequel tu choisis de l'écouter, c'est à ta discrétion. Nous autres, on va te le donner sur tout ce qu'on peut. Puis après ça, viens nous rejoindre puis viens triper avec nous autres. Je cherche du négatif là-dedans. Puis il y a des gens qui en trouvent. Je suis comme, RDS va se foutre de la lutte. Non, on s'est fait dire oui. Il n'y a personne qui se fout de la lutte. Là.
Il ne faut pas oublier ça. Il y a des gens qui voient juste le mauvais côté automatiquement de toutes les choses. Ça, il ne faut pas s'en faire avec ça.
Puis, tu disais, Stéphane, que bon, ça t'a permis de constater dans les derniers jours qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui sont des amateurs de lutte qui n'ont pas nécessairement embarqué dans le bateau au début de la AEW dès les premières semaines. Ils sont peut-être un petit peu largués dans ça. Je voudrais m'adresser aux auditeurs du Petit Paquet qui pourraient peut-être s'identifier à ça, qui bon, se disent, bon, s'ils se mettent à parler plus de AEW, est-ce que je vais être concerné? Ben, moi-même, en raison du contretemps familial qu'on a évoqué tout à l'heure, je n'ai pas pu être aussi assidu que je l'étais auparavant dans mon écoute de la AEW. Donc, voyez-moi comme étant votre voix. D'ailleurs, je ne sais pas si vous venez d'entendre, mais là, on entend un petit derrière.
Parlant de contraintes familiales.
Ben, c'est ça. Mais je serai donc la voix des auditeurs du Petit Paquet qui ont peut-être manqué des petits bouts de AEW. Je poserai les questions difficiles à François et à Stéphane pour que personne ne se sente largué.
Là, il faut que ce soit clair aussi pour tout le monde. La vocation du Petit Paquet ne change pas. On est là pour vous parler de lutte. On va essayer de revenir. Je ne sais pas si on va être là toutes les semaines, mais sinon, aux 2 semaines, facilement, on veut être là plus souvent. Oui, on va vous parler de ce qui se passe du côté de la réalité, évidemment, parce qu'on va baigner dedans toutes les semaines.
On le faisait déjà avant, de toute façon.
T'sais. Exactement, mais on va continuer de regarder un regard non seulement du côté de la WWE, mais de ce qui se passe partout dans le monde, au Japon, puis entre autres. Puis on va continuer là, de vous gosser avec nos opinions sur tout ça. Donc, c'est ça, belle grosse nouvelle. On est bien contents. Puis là, ça m'amène justement au premier épisode de la semaine prochaine parce que là, la marde de pogner dans le ventilo, comme on dit, puis le combat Punk Moxley qu'on attendait pour All Out dans 3 semaines, là, est annoncé pour la semaine prochaine. Donc, on va avoir ça sur les ondes d'RDS. Puis, là, ce qui est intéressant, Stéphane, c'est tout ce qu'on entend backstage au travers de tout ça. La promo de Punk hier soir où il a semblé aller en business pour lui-même, là, comme dit l'expression, en blastant Hangman Page qui n'était pas présent, qui n'était pas en lançant un défi quand le lutteur n'est pas là pour y répondre. C'est quelque chose qui d'habitude se fait pas, mais là, il y a d'autres reports qui disent que c'était un reçu pour d'autres affaires. Fait que là, on est dans une espèce de chaos assez total là, présentement par rapport à ça.
Écoute, cette situation-là se développe encore au moment qu'on jase. Là. Depuis un matin, il y a plein de trucs qui sortent encore. Tu sais, Punk, on va faire un mini-résumé, s'est blessé au printemps. Quand il a battu Adam Page pour le championnat All Elite, il s'est cassé le pied. Il s'est cassé des os dans le pied, il a fallu qu'il s'est fait opérer. Donc,
dès
qu'il
a gagné... Dans la main suivant son titre,
c'est ça. Donc, c'était annoncé, il quitte, mais au lieu de le déchausser du championnat, on a créé un championnat intérimaire qui était John Moxley. Donc, c'était toujours sous-entendu qu'on attendait le retour de Punk pour un peu continuer l'histoire qui est en cours, puis tout ça est un petit peu sur pause. Sauf que là, Punk revient. Et l'histoire a juste pris un virage drastique à gauche parce que là, Punk, depuis qu'il est revenu, est passé un peu de le anti-héros attendu quand il était de retour avec All Elite après 8 ans d'absence à finalement, il y a peut-être une raison pourquoi il n'était pas là depuis tout ce temps-là, puis les gens ont peut-être putain envie de travailler avec lui. Et là, il y a comme ces deux voix-là qui s'élèvent. Et là, tu as cette promo-là que tu la vois à la télé, que tu ne comprends pas. Et là, le lendemain, tu entends « Ouais, il n'était pas supposé dire ça. » Et c'est, comment dire, c'est Frank a mentionné le reçu que Adam Page a dit, c'est que semblerait-il que tout ça monte de frustration de quand ils ont eu leur rivalité pour le championnat du monde. Adam Page aurait lancé des lignes qui n'étaient pas tant supposées d'aller. Aurait lancé des lignes comme quoi CM Punk n'était pas un team player dans le vestiaire, n'était pas quelqu'un d'apprécié de façon unanime, et ça n'aurait pas passé. Et il y aurait eu, semble-t-il, des rencontres à porte fermée où Punk aurait carrément dit à la direction de la All Elite, « Je ne vais pas dropper pour Page, je ne me couche pas pour lui, c'est je gagne ou je m'en vais. » Peut-être pas dans ces mots-là, mais c'était clair qu'il n'avait pas envie de mettre over Hangman Page parce que ça devenait un peu trop personnel. Et là, ce qui est arrivé, comme Frank dit, il est allé avec ses intérêts en premier, a ouvert l'émission, son retour, parce qu'il est revenu dans le ring la semaine passée, mais il n'avait pas dit un mot. Donc, c'était sa première promo depuis qu'il revient de blessure. Et il lance ça en faisant mal paraître Adam Page, qui est un des plus gros babyface de l'organisation, qui a été construit comme ça depuis 3 ans. Et non seulement il l'a lancé en dessous de l'autobus, Frank disait que Hangman n'était pas là. C'est encore pire que ça. Il était là. Il était en coulisses. C'était juste tellement pas prévu comme truc que c'est comme, ben, je peux pas y aller. Je peux pas aller au ring le rejoindre pour répondre à un défi puis faire un combat qui n'est pas supposé. Donc, tout le monde était juste un peu en mode attente. Et là, la retombée de ça, c'est que non seulement Punk a fait ça tout seul, a été un peu... comment dire, un rebelle, mais il y avait aussi des rumeurs qui se pointent même pas à cette émission de Dynamite-là, tellement il n'était pas content. Et là, cette grogne-là ne va pas s'en rappeler le fait que quand il est parti de la WWE, il a juste claqué la porte, il est parti en brûlant des ponts. Est-ce qu'il est en train de rebrûler des ponts là, dans son comeback à la All Elite? C'est pour ça que le combat de championnat du monde est la semaine prochaine. C'était supposé être le combat principal de All Out, évidemment. Donc là, ça semble-t-il que Tony Khan a rebrassé les cartes pour faire plaisir à tout le monde. Est-ce que ça veut dire que Punk se fait enlever la ceinture et retourne chez eux avec la baboune? Est-ce que tout ça est un work pour inclure Hangman dans la rivalité? Il y a encore des gens qui pensent que c'est peut-être un work. D'un autre côté, s'il y a un fond de vérité, c'est le temps de construire une histoire avec et de rebondir dessus. Donc, tout ça est non seulement super étrange, mais ça ne fait pas super bien paraître CM Punk qui était au sommet de sa popularité.
Oui, puis c'est le classique, là, la phrase « vient des choses de super-héros », puis c'est quelque chose qu'on a entendu souvent, mais tu meurs comme héros ou tu vis assez longtemps pour te voir devenir le vilain, puis on dirait que c'est là qu'on est en train d'arriver avec CM Punk, un gars qui a toujours eu un gros ego, mais qui, en tant qu'underdog, on dirait que c'est plus facile d'accepter puis de comprendre, de vouloir être au top. Là, quand tu es au top puis que tu continues d'agir, en même temps, au final, peut-être qu'on a juste le même CM Punk qu'on a toujours eu, c'est juste que là, il est dans une situation où il est en haut de la montagne puis on voit quel genre de personnalité il est.
Oui, peut-être. C'est lui qui fait le plus gros chèque probablement dans le vestiaire. C'est un des vétérans. Je comprends pas. On n'est pas des initiés, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe. C'est juste qu'en tant que public, tout ça est juste. Ça serait peut-être plus simple de juste couper les cordons et de vivre sans CM Punk, même si c'est encore leur lutteur le plus populaire, malgré tout. Ils ont construit beaucoup de vedettes All Elite, mais c'est encore Punk qui a le pop. C'est encore Punk qui vend des t-shirts. Il y a comme le gros bout du bâton, mais en même temps. Il n'y a pas tant de bâtons que ça à avoir le gros bout de. Tout ça est juste étrange.
Ils ont quand même beaucoup de champions potentiels là, dans le All Elite Wrestling. Moi, ce que je trouvais surprenant, c'est que tu mentionnais qu'il y avait même des rumeurs comme quoi il y avait des chances qu'il était tellement fâché encore qu'il ne se pointe pas au Dynamite de mercredi, mais encore fâché à ce point de choses que Paige aurait dites il y a de cela 6 mois, 8 mois.
C'est ça qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il s'assoit sur... Parce que là, Paige en aurait peut-être ajouté là, dans les dernières semaines en disant qu'il n'y a rien à apprendre de ces vétérans-là. Tu sais, il y a une animosité qui se construit. Là.
Une des choses qui semble apparemment avoir joué, c'est lié à Colt Cabana. On sait que CM Punk a une relation compliquée avec Colt, qui a déjà été son ami, puis que là, ils sont en guerre ouverte depuis des années. Quand Colt allait perdre son emploi, apparemment, il y a plusieurs lutteurs de la All Elite qui sont un peu allés au bat pour lui au niveau de Tony Khan, ce qui a sauvé entre guillemets sa job. On l'a réengagé pour la portion Ring of Honor. Puis apparemment, ça a joué aussi dont Hangman Page, parce que Hangman Page a été avec Colt dans le Dark Order. Là, comme membre, c'est ça. Même si c'est pas un membre officiel, c'est tenu avec eux autres pendant longtemps. Fait que apparemment, tout ça aurait peut-être mis un peu des flammes. Puis il y a des reports que là, backstage, c'est un peu le chaos qu'il y a beaucoup des gros noms qui ont des gros, je cherche comment dire, grievance, mais des gros problèmes, des grosses affaires sur le cœur, exactement. Puis là, il va falloir que Tony Khan assiste tout ce monde-là puis règle tout ça, parce que tu peux pas, quand toutes tes vedettes sont à un couteau tiré, tu peux pas vivre dans cette ambiance-là du temps éternel.
Je pense qu'on voit aussi pourquoi, je pense que c'est sorti de ça quelques semaines, qu'ils ont commencé à, je pense qu'ils ont créé un poste de relation avec les talents, là, chose qui n'existait pas dans la AEW. Peut-être que ça vient justifier ce besoin-là. C'est drôle, mais en même temps, c'est normal, parce qu'au début, les premiers mois de la All Elite, tout ce qu'on entendait sur ce qui se passait en arrière de la scène, c'était des papillons, des champs de fleurs, tout le monde était heureux, tout le monde était content de travailler les uns avec les autres, mais bon, je pense que ce qu'on est en train de vivre là, on dirait que peu importe la fédération de lutte que tu as, ça va finir par se passer éventuellement. C'est des gens avec des gros égos. Tout le monde veut être mis à l'avant-scène. Et là, ben forcément, avec c'était le fun de voir autant de lutteurs, d'agents libres être ajoutés donc au roster de All Elite au cours des dernières années. Mais ça fait quand même beaucoup de gens qui veulent leur temps de télé. Donc, ça finit par créer de la friction.
C'est inévitable. Après 3 ans, là, on voit... Que tu t'en sors pas. Il y a des gens qui vont être pognés dans le mid-card, entre guillemets. Il y a des gens qui ne seront pas satisfaits de leur temps d'antenne, de ce qu'ils ont. Puis All Elite, et fait une très bonne job, à mon avis personnel, de raconter des histoires puis de nous donner un show extrêmement intéressant à toutes les semaines. Ouais, on est d'accord. Ils ne sont pas parfaits. Il y a des choses qu'on peut leur reprocher. Hangman Page, après avoir droppé, on l'a juste pur vu. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut quand même souligner qu'on peut comprendre que des fois que certaines personnes backstage, parce que voyons, pourquoi j'étais au centre de toutes les histoires la semaine passée, puis là, après ça, je ne suis plus dans l'émission. Tu sais.
En fait, je pense qu'il va falloir aussi lever une question. Tony Khan, à la naissance de All Elite, n'était pas un dirigeant expérimenté. Tony Khan, comment dire, jouait un peu avec l'argent Monopoly de son père. Parce qu'officiellement, il n'est pas propriétaire de All Elite. Il est un des propriétaires. C'est son père qui finance le tout. Le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, notamment. Il possède aussi Fulham dans la première ligue anglaise. Donc, c'est une richesse qui dépasse largement Tony Khan. C'est un leg familial absolument gigantesque. C'est de l'argent du Moyen-Orient avec le pétrole et tout. Donc, c'est des richesses quasiment infinies. Et Tony Khan a été un peu parachuté là-dedans parce qu'il aimait la lutte, parce qu'il était ami avec les box avec Cody à l'époque quand ils ont lancé All Elite. Et là, je pense qu'après 3 ans, on réalise que tranquillement, pas vite, justement, la lune de miel est terminée parce qu'il faut commencer à gérer ça comme une entreprise. Et Tony Khan est d'abord et avant tout une espèce de... Ça va être méchant dit comme ça, mais c'est un peu un chiot énervé qui vient d'avoir plein de nouveaux jouets, puis qui veut jouer avec tous ses nouveaux jouets, puis il va faire des dégâts à terre, puis... Tu sais, c'est pas une relation... pas une relation saine. C'est
ça
pas une relation.
Ça ressemble au bébé à Mathieu.
Un petit peu les bébés à Mathieu qui découvrent tout ce qui est à moins de 2 pieds du sol. Mm-hmm. Donc, Tony Khan, c'est un peu ça. Et c'est pas une relation habituelle en affaires de voir un dirigeant d'entreprise, par exemple, quand il y a un nouvel employé, de lui faire des gros câlins en pleurant parce qu'il est heureux qu'il soit là. Mm-hmm. On pense à Claudio Castagnoli quand il est arrivé après son premier pay-per-view. C'est pas que c'est négatif, c'est même beau avoir cet enthousiasme-là de Tony Khan, mais ça va lui prendre une structure corporative autour de lui parce que là, c'est ça, il peut pas être le BFF de tout le monde dans l'entreprise et d'un autre côté, être celui qui signe le chèque et qui décide « ben toi, t'as un job, toi, t'en as pas, toi, tu vas aller à Dark. »
Puis en plus, là, présentement, en tant que head booker, toutes les décisions reviennent à lui. Puis apparemment, si t'es pas haut sur le totem pole présentement, il est dur à rejoindre. Puis ça, je trouve ça triste d'aller là, mais on s'en souvient que c'était en tête de liste des problèmes qu'il avait eu à WCW.
Absolument. Il est en train de devenir son pire ennemi parce que c'est ça. Il est très focusé sur l'immédiat et ce qui lui parle. Mais tu sais, tu as une émission de 2 heures, tu as Rampage, tu as des pay-per-views, tu as Dark, tu as la Ring of Honor.
Il porte beaucoup de chapeaux.
Mais là, il y a beaucoup d'assiettes qui tournent sur des petits bâtons, puis il est en train d'en échapper quelques-unes. Par exemple, Ring of Honor, hey, c'est cute, là, ils ont fait 2 pay-per-views, mais il ne se passe absolument rien avec Ring of Honor. Là, ils tournent pas, ils n'ont pas de spectacles locaux. Leur champion du monde, Jonathan Gresham, est parti parce qu'il était comme, hey, j'ai de la misère à parler à mon boss qui ne me considère même pas comme un lutteur. Je vais juste
c'est m'en
aller. Fait que là, évidemment, il n'est plus champion, mais tu sais, tout ça, et on commence à avoir des petits drapeaux rouges qui, on ne dit pas que Tony Khan n'est pas un bon boss, on dit juste qu'il n'est peut-être pas assez expérimenté pour avoir une aussi grosse machine à gérer. Puis tu l'as dit, Mathieu, tes lutteurs, ça a des égos. Donc, tu sais, si dès que tu mets le pied dans le building, tu en as 12 qui t'accrochent pour te dire « Hey, qu'est-ce qui se passe avec mes histoires? Hey! » Ça se peut qu'à un moment donné, sa tête, elle fasse juste spinner. Donc là, ils ont installé Tony Schiavone comme justement le agent de relation avec les talents. Ça va en prendre plusieurs autres. Mets des gars de lutte là-dedans, mets des gars expérimentés. Tu les as, ils sont déjà dans ton vestiaire. Tu as déjà un Anderson qui traîne dans ton vestiaire. Tu as des gars comme le Big Show qui font strictement rien. Tu as des gars comme Mark Henry qui fait juste un peu de commentaires une fois de temps en temps. Des gars comme Taz. Même à la limite, des gars comme Sting. Il a 65 ans, il a vu neiger, là, il a connu la lutte des années 80, des gars qui se faisaient des coups chiens pour avoir un avantage sur les autres. Mais ces vétérans-là, dans des positions où ils vont faire la job sale. Ils vont juste être là pour dire aux lutteurs, « Hey, c'est une business, on travaille tout ensemble. » Ça prend un cadre, parce que là, il manque de cadre un petit peu.
Des gens qui étaient justement carrément là quand la WCW a commencé à péricliter et donc qui peuvent voir les erreurs à ne pas reproduire.
Ben, c'est ça. Parce que là, la WWE aussi change beaucoup et ils semblent avoir appris de leurs erreurs. Bon, c'est encore très, très tôt pour le dire, mais ils semblent avoir une volonté de changement qui s'éloigne de, justement, un patronat qui n'est pas à l'écoute. Donc, à la troisième année dans l'élite, c'est peut-être là que ça devient charnière de soit on continue à grossir, soit on atteint un plateau. Et c'est pas encore assez gros pour que ce soit un plateau satisfaisant, à mon avis. Je pense qu'il faut qu'ils grossissent plus que ça pour être vraiment confortable parce que j'ai pas fait le décompte récemment, mais il y a beaucoup de lutteurs dans l'organigramme de All Elite. Alors, au-dessus d'une centaine, c'est sûr et certain. Donc, éventuellement, il faut que tu gères ces gens-là, il faut que tu gères les attentes, il faut que tu gères les égos. Tony Khan, il y en a peut-être trop.
Mm-hmm. Et peut-être aussi, comme MJF le disait, que le fait qu'il soit un mark, un fan de lutte, ouais. Ben ça finit par jouer contre lui parce qu'il veut faire plaisir un peu à tout le monde.
Pas tout le monde. Il veut faire plaisir à ses amis. C'est ça qui est un problème. C'est que là, Tony Khan est proche de peut-être une quinzaine de lutteurs, une poignée. Et ça paraît, tu sais, justement, il lui fait des câlins et tout ça. Et les autres mangent un petit peu du pain noir. D'ailleurs, MJF, parlons-en tout de suite. Il devrait revenir. On ne l'a pas revu. Ça a été une gestion. On n'était pas là, fait qu'on n'a pas pu en parler. MJF, là, justement, fait une promo contre Tony Khan, contre
incendiaire.
Oh, et là, une espèce de pipe bomb version 2022. Après ça, plus de son, plus d'image. C'est comme s'il n'existait pas, pas de présence médias sociaux. Il est enlevé des vidéos. On joue un peu la carte de « il n'est pas congédié, mais il n'est pas là, il n'est pas le bienvenu. »
C'est en pénitence.
C'est ça, mais c'est un work, mais c'est un drôle de work comme c'était quoi votre stratégie que j'oublie qu'il existe? T'sais, si c'est un work moi. J'attends juste ça, de me faire worker. Là, c'est comme juste, tu me work un petit peu. Puis après ça, on passe l'été. Et là, les rumeurs parlent qu'MJF va revenir plus tôt que tard. Est-ce que c'est dès la semaine prochaine? Si ça commence à sortir, est-ce que c'est ça qu'on fait? Est-ce qu'on brouille les cartes? Est-ce que MJF vient s'inviter dans le portrait de championnat du monde comme une espèce de renegade qui veut sauver All Elite de Tony Khan et des Marks. Je ne sais pas c'est quoi leur stratégie, mais là, son nom a comme remonté. Il y a rarement de hasard dans la lutte, là, dans les nouvelles et dans les dirt sheets. Si son nom commence à remonter, c'est que son nom recommence à circuler dans les plans. Tout ça a été géré tout croche, à mon avis. C'est une mauvaise histoire. Mm-hmm. Ça a été mal géré. Et c'est peut-être mal géré, justement, parce que c'est peut-être pas le premier scandale de Tony Khan, mais contrairement à un Vince et à la famille McMahon qui en ont vu d'autres, quand tu n'es pas habitué de devoir gérer un lutteur qui te fait des menaces de s'en aller s'il n'y a pas d'argent ou whatever, ben ça se peut que tu le gères mal. Puis je pense que là, c'est un bel exemple de il ne savait pas trop quoi faire avec cette patate chaude-là, donc sa stratégie a juste été de la laisser à terre, de le temps qu'elle refroidisse. Et c'est de la bad business. Tu as quelque chose de très, très hot. Tu ne le laisses pas mourir, tu fais de l'argent avec.
Surtout, je me dis, bon, MJF, on s'entend, c'est ce que la AEW a de mieux à offrir en tant que méchant, sauf qu'avec une absence aussi longue, et c'est un méchant qui est quand même populaire, là, je veux dire, le public de AEW reconnaît sans l'ombre d'un doute l'étendue de son talent, mais là, après avoir été absent pendant plusieurs mois, quand il va revenir, il va avoir un pop de babyface, là, peut-être que la première phrase qu'il va dire va être suffisante pour faire revirer le public de bord. Il en serait fort capable. Mais quand même, c'est ça. C'est un retour qui est attendu. Les gens vont être contents de le voir. Mais c'est pas ça que tu es censé vouloir raconter avec un gars comme lui.
Non, vraiment pas. Là. Puis là, c'est, sûr qu'on sait pas.
C'est ça le but de le turner face. Ça peut fonctionner, ce break-là. Puis,
C'est le but.
Si c'est ton émule de Stone Cold, là, on revient toujours à cette comparaison-là, mais s'il devient cette espèce de figure anti-héroïque, là, c'est le temps. Parce que si CM Punk est en train de devenir un peu méchant...
Ben, c'est ça
que
j'allais dire.
les gens n'attendent que la poussée dans le dos pour justement tourner le veste contre lui. Cette poussée dans le dos-là va peut-être être MJF qui rebrasse le caca qu'il y a eu entre lui et CM Punk. C'était de l'or en barre. Là. Ils ont passé des mois à juste se faire des joutes verbales et on était comme pendus à leurs lèvres. Donc, si c'est comme ça que tu remets MJF dans l'échiquier, ça va faire un bang. Parce que là, en plus, comme Frank mentionnait, là, on n'est pas dans le inside baseball, mais All Elite, il faut qu'ils renégocient leurs droits télé. Ça bouge énormément aux États-Unis dans le niveau de l'acquisition avec la compagnie mère derrière les réseaux qui a jumelé avec HBO. Donc, tout ça est en train de devenir une espèce d'énorme entité médiatique et All Elite se retrouve un petit peu à la remorque de hein, si nos chiffres ne sont pas bons, ils vont peut-être nous enlever notre place privilégiée. On n'a pas de partenaire de diffusion en ligne, notamment. Donc, tout ça est encore des balles avec lesquelles, j'imagine, Tony Khan doit jongler. Et pour avoir des munitions dans son sac, bien, ça lui prend des codes d'écoute. Et sa seule carte cachée qu'il a, c'est MJF. Il peut pas, tu sais, il y a plus de gros noms là, qui n'ont pas d'emploi présentement, qui peut juste dire je les injecte dans mon émission puis je vais avoir un buzz. Il n'y en a plus.
Ils ont il y a Bray, des mais Bray, présentement, les rumeurs le ramènent à WWE. Ouais, ouais. Gargano va être une signature intéressante, peu importe où il revient, mais c'est pas un needle mover. Là,
non, c'est ça, c'est, vraiment pas.
C'est plus toi et moi qui va réagir à la présence de Gargano à quelque part, mais pas le grand public. Ça ne va pas attirer des nouvelles paires de yeux.
Des vrais needle mover, il n'en reste plus tant que ça. Il y a Brock Lesnar qui est toujours l'électron libre. À ce temps que Vince n'est plus à la WWE, ouais. Ça peut être intéressant de voir si l'argent n'a pas parlé.
Justement, ça c'était le prochain sujet. Vince McMahon, on n'a pas été là cet été, donc on n'a pas eu le temps d'en parler. Bon, je pense qu'un peu la réaction initiale, surtout pour les fans de lutte, quand tout ça est arrivé, la retraite de Vince avec toutes les choses qui ont sorti sur lui, il y a eu un petit peu, en tout cas dans mon cas, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, il y a eu un peu de comme, my God, c'est quasiment plate que tout ce que cet homme-là va faire va se terminer de cette manière-là. Puis là, plus les semaines arrivent, puis plus il y a d'autres affaires qui sortent, puis d'autres paiements qu'on apprend qui ont été faits, la question devient plutôt... Comment ça se fait qu'il s'est rendu si loin que ça, dans le fond? Comment ça se fait que ça n'a pas sauté avant ça? Mm-hmm. Quand, tu jouer d'un livre quand tu joues à jouer d'un livre avec l'argent de la compagnie, là, tu te mets dans une position qui après ça, que même la compagnie ne peut pas défendre.
J'ai l'impression que Vince McMahon, c'était comme un peu un dealer de drogue. Là. On était tous ses clients. On avait besoin de notre fixe de lutte plusieurs fois par semaine et on était prêts à lui pardonner quand même beaucoup de choses. Et personne, tout le monde savait que c'était pas nécessairement une très bonne personne, Vince McMahon. Là. Les histoires autour de lui pullulaient depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est certain que quand on voit tout ça se matérialiser, se concrétiser de la sorte, c'est sûr que c'est fâchant de voir que sa réputation va être ternie. Mais en même temps, sans enlever tout ce qu'il a bâti, parce que le rôle qu'il a joué dans l'histoire de la lutte contemporaine, c'est absolument majeur. Il n'y a personne qui arrive à la cheville de Vince McMahon comme bâtisseur, là, si on veut. Cela dit... Je ne sais pas combien de temps le petit paquet avait roulé avant notre pause, mettons 3-4 ans. Hein, à chaque semaine, on devait dire « Hey, on a-tu hâte que Vince McMahon arrête de se mettre le nez dans les histoires, les décisions qu'il prend, c'est pas super bon. » Moi, j'avoue que quand j'ai vu la nouvelle arriver, je n'ai pas passé à « Ah, c'est plate, sa réputation est ternie. » Je fais comme « Bon, enfin. » Premièrement, j'ai fait comme « Je pensais jamais voir ça de ma vie. » Je pensais qu'il allait comme mourir en étant encore le head booker de la WWE. Une fois que cette surprise-là est passée, ben, j'ai fait comme « Oh, OK, enfin! » Et là, peut-être, tout dépendamment de ce qui va se passer ensuite, parce que bon, le fait que ce soit Triple H qui prenne sa place comme directeur créatif, c'était pas annoncé immédiatement. Donc, il y a eu comme quelques jours de flou où on se disait « Ben, ça ne veut pas nécessairement dire que les choses vont devenir mieux. Mais là, ce qu'on semble voir, c'est que, disons, le vent a tourné et ça semble aller dans la bonne direction, me semble.
Oui, Stéphane, je pense que la WWE de Triple H semble vouloir prendre une direction créative nouvellement motivée, intéressante, puis... Clairement, ça va aider le produit, puis ça va aider peut-être à ramener cette compagnie-là un peu dans le cœur de tout le monde. Peut-être venir même rechercher des gens comme nous autres qui ne l'écoutaient presque plus.
Oui, honnêtement, on ne résumera pas le dernier 3 mois, il s'est passé vraiment, vraiment beaucoup de choses, mais côté affaires, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à la WWE. Évidemment, le scandale, tu t'en passes, tu ne veux pas que ton fondateur soit associé à des actes répréhensibles parce que c'est pas bon pour la réputation, mais côté là, opérationnel, côté lutte, côté structure de l'organisation, ça fait longtemps que ça avait arrivé. Comme Mathieu disait, on se le demandait, pourquoi c'est encore le bonhomme dans ses 70 ans qui tire les ficelles de tout ça. Et là, C'est triste que ça ait été forcé par un scandale et non juste par une espèce de clairvoyance. Ça serait peut-être le temps que tu passes un autre appel. Mais regarde, c'est fait, on va le prendre. On l'a amené derrière de la chaîne, on a tapoché dessus. Plus de Vince McMahon. Et honnêtement, c'est encore loin d'être fini. Selon moi, il y a d'autres histoires qui vont sortir. Là, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de paiement par la porte en arrière, on parle de dons frauduleux à la fondation de Donald Trump. Mais soyez pas surpris, personne, là, si dans 6 mois, c'est des femmes qui se lèvent pour parler de viol, là, ça ne sera pas juste de l'argent, ça va être des actes criminels. Donc Vince McMahon, on va le sortir de là, on va lui forcer à vendre ses actions, là, ou on va vendre la WWE carrément et faire une cassure. Et c'est là où la business lutte va devenir très intéressante, parce qu'avec ou sans Vince, la WWE est gigantesque. Ils font de l'argent comme de l'eau, ça n'a jamais été aussi bien été côté monétairement. Ils ont déjà vendu des billets pour WrestleMania. Ils sont rendus à l'étape où les villes payent pour que la WWE vienne faire des spectacles. Ils font Cardiff, je crois, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Pourquoi ce n'est pas à Londres, ce spectacle-là, en Angleterre? C'est parce que Cardiff a donné une petite valise avec de l'argent à la WWE pour lui dire « Venez dans notre stade, c'est bon pour notre économie locale. » Donc, tu sais, quand ta business est à ce stade-là, là, tout ce que tu veux, c'est peaufiner les détails. Et c'est là que Triple H embarque. Triple H va essayer de ramener ça. On n'est plus à l'ère PG. C'est terminé. Donc, un des quand même majeurs changements, on abandonne un petit peu la volonté d'avoir les enfants de 8 ans dans le giron. On va leur parler quand même, mais on va offrir un produit aussi pour les ados, aussi pour les jeunes adultes qui ont été le pain et le beurre de l'organisation pendant de longues années. Et tout ça va se refléter avec un petit peut-être moins d'importance avec la télé en direct, mais tout dans les événements spéciaux, dans les droits d'acquisition, dans les ventes de billets, dans la vente de merch, tout ça va super, super bien. Donc, on n'a pas besoin de couper les coins ronds, on n'a pas besoin de rendre les livres intéressants pour une vente. La compagnie est bonne. On a enlevé ce qui, à mon avis, était un peu du bois mort en évacuant Vince McMahon. Donc, j'ai pas été enthousiaste par la WWE depuis, écoute, je pense depuis la création du petit paquet. Tu sais, je le regardais, j'avais du plaisir, il y a des choses que j'aimais. Mais là, j'ai un regard curieux, positif vers, ils vont-ils être capables de me rallier avec les moyens qu'ils ont, avec les lutteurs qu'ils ont, il y a du talent à ne plus savoir quoi en faire. Ils ont la possibilité de me ravoir, moi qui est un fan de lutte dans la quarantaine presque, qui a vu énormément de luttes et qui veut en voir plus. Et ça se manifeste là, tranquillement. J'ai eu du strong style à SmackDown la semaine passée.
Ah oui.
Je ne pensais pas voir ça un jour. Là. Et non seulement je l'ai eu, il a été nommé par les lutteurs. Ils ont parlé de lutte, ils ont parlé de strong style. Le championnat était mis de l'avant. Quand, hey, ça commence à ressembler à ce avec quoi je suis tombé en amour quand j'étais kid et non les affaires de tarte d'en face. Là.
En quelques semaines seulement, ils ont vraiment réussi à redorer le blason de la ceinture intercontinentale puis du titre des États-Unis. Tu sais, ça fait combien de fois au cours des dernières années qu'on entend dire on veut remettre ces ceintures-là prestigieuses, mais ça se concrétisait jamais. Alors que là, il y a vraiment un momentum pour ça, là, des main events, le main event justement à Gunther contre Nakamura. Tu sais, gros match qui me fait dire OK, cette ceinture-là, c'est quelque chose de sérieux. En même temps, peut-être qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier avec Roman Reigns qui détient les deux championnats du monde principaux et qui n'est pas extrêmement présent. Il ne se passe pas beaucoup de choses autour de lui. Mais quand même, ça, c'est enthousiasmant. Puis, tu sais, je pense qu'une des principales doléances qu'on avait avec la WWE, c'est qu'on avait l'impression que notre intelligence n'était pas respectée en tant que public. Alors, tu sais, je finissais souvent un show ou un segment en trouvant qu'on me prenait pour un cave. Alors que là, j'ai l'impression que je ne suis pas naïf, je sais que je vais encore avoir réagir négativement à des épisodes, à des segments, mais j'ai l'impression que mon intelligence va davantage être respectée. Peut-être que ce sera éphémère, mais présentement, j'apprécie.
Puis là, ils sont ici. Tu vas être là. Toi, Stéphane, tu y vas ce soir, je pense, à SmackDown.
Oui, absolument.
Ici à Montréal. Fait que c'est une belle occasion là, de de retourner sur place et d'aller peut-être se réconcilier avec, avec le produit.
Mais là, on parle de réconciliation, messieurs. Mettons qu'on pose la vraie question. Là. Allez-vous quand même en regarder?
Pas autant qu'avant, mais disons que j'avais même presque arrêté de suivre les nouvelles sur la WWE. Maintenant, je reçois les nouvelles, je regarde des segments, peut-être qu'éventuellement, je regarderai des épisodes au complet.
Ça reste 5 heures de lutte par semaine. C'est beaucoup d'heures.
C'est très, très long.
Mais pour répondre à ta question, je pense qu'au moins regarder peut-être des résumés ou... recommencer à suivre ce qui se passe, ne serait-ce que ça, là, serait intéressé un peu au produit, peut-être écouter les pay-per-view.
Et là, on parlait pas beaucoup de ça, mais on fabulait un peu à l'idée d'une guerre All Elite WWE. Ça n'a jamais vraiment été une guerre, là, ça a toujours été All Elite un tire-poids contre le bazooka de la WWE. Sauf que là, il va avoir un réel intérêt à faire du va-et-vient entre les deux. Parce que là, il y a des lutteurs qui ont commencé, justement, tu sais, on parlait de des plaintes en coulisses d'All Elite, puis peut-être des insatisfactions de tout le monde. Et là, avec Triple H qui reprend le contrôle, il y a comme des mots positifs qui émanent des lutteurs de l'All Elite envers ça, notamment Bobby Fish qui disait que c'était un des meilleurs bookers qu'il y a eu. Parce que, tu sais, là, la All Elite était comme la terre promise pour les lutteurs moins utilisés de la WWE. Ce qui va avoir une espèce de retour du balancier où la WWE sous Triple H va devenir l'espèce de providence pour les lutteurs insatisfaits en dessous de Tony Khan.
Ce qui est arrivé à Vince, c'est la meilleure affaire qui pouvait arriver à la WWE parce que sans ça, on se dirigeait vers un futur où la E continuait de descendre puis l'élite continuait de monter. Je pense, personnellement. Là, avec une WWE sous les règnes de Triple H qui a plus, d'après moi, une bonne évaluation des talents des lutteurs que Vince. Parce que pour Vince, quand t'étais pas, on le sait, là, quand t'étais pas un gros gars, t'étais rien. Quand il a abandonné des gimmicks puis des lutteurs après 2 semaines parce qu'il était comme non, ça m'a pas tenté, tu sais, puis tout de suite, on a revu dès le départ, il y a des noms qui avaient été mis dehors qu'on a tout de suite allé rechercher avant qu'ils repartent parce que Triple H sait qu'ils ont du talent. Il y a beaucoup de Triple H guys aussi qui attendent, entre autres Kevin Owens, qui peuvent espérer justement remonter peut-être dans la carte. Donc, tout ça va être intéressant à surveiller, je pense, dans les prochains mois et années.
Je pense que non. Mais non seulement il y a une meilleure évaluation du talent des lutteurs, mais je pense qu'il y a une meilleure compréhension aussi des attentes du public contemporain. Oui. Donc, tu sais, oui, Vince a bâti quelque chose de gros, mais souvent sa façon de gérer les histoires, de gérer les lutteurs, nous donnait l'impression qu'il vivait encore un petit peu dans les années 80. Donc, ça fait du bien.
Ah, ne serait-ce que pour ça, là, arrêter d'avoir des jokes de mon oncle à l'écran. C'est donc drôle d'avoir... Des gros monsieur bavés devant des pitounes. On peut-tu passer un autre appel?
Mais
Seigneur.
Tout n'est pas parfait parce que Tyler Bates s'est pointé à NXT en tant que champion UK avant que l'épisode où il gagne la belle soit passé.
Hey, le tournoi n'est même pas commencé, je pense. Mais là, c'est ça, les fonds du ménage, ils vont changer le nom. Ils ont
ça se peut que ça devienne NXT Europe au lieu de UK. Là, je pense que tout ça, ils sont amenés à faire du changement. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il y a de ces noms-là. Il y a des gros noms UK qui vont être appelés à juste s'en venir en Amérique du côté de la vraie NXT, puis peut-être même du main roster éventuellement.
J'espère que ça ne signalera pas la fin de la ceinture du champion UK parce qu'elle est tellement belle, cette ceinture.
Oui, c'est vrai que c'est une belle belle, je suis d'accord.
C'est vraiment une belle ceinture, mais si on gagne Tyler Bates un peu plus souvent, honnêtement, NXT, je n'ai pas regardé grand-chose. C'est tellement rendu juste des lutteurs verts qui apprennent sur le tas que c'est moins intéressant pour moi, mais si
il y a juste trop de
Tyler
couleurs
Bates,
aussi.
Ouais, c'est funky, hein, le retour des couleurs. Je suis pas sûr que j'étais à mode. Moi, le tie-dye, ça me passe un peu à côté. Visiblement, on n'est pas cool.
Stéphane, il y a 3 choses de sûr dans la vie. La mort, les taxes, puis Okada qui gagne le G1.
Ouais, Okada qui gagne le G1. Transition, hein, on est rendu au Japon. On passe des couleurs à la NXT, on est rendu au Japon. C'était la fin du G1 cette semaine, la finale Okada contre Will Ospreay. Okada l'a gagné l'année dernière et Okada l'a gagné cette année. C'était ça l'angle. C'est son quatrième G1.
Quatrième G1,
oui. Il y a juste Masachiro Chono qui en a un de plus. Donc, on parle des années 90 là, pour Chono et non des années 2000. Okada, c'est la vache d'or de New Japan Pro Wrestling. Ça va moins bien là, ce temps-ci avec New Japan. La pandémie est encore très présente en Asie. Les ventes de billets ne vont pas bien. Les spectateurs sont moins là. Donc, on dirait qu'on veut... aller avec des valeurs sûres. Okada n'est plus le champion du monde, mais va être le porteur de la valise jusqu'à Wrestle Kingdom en janvier, qui va être seulement un soir, ça a été annoncé. Donc, on abandonne les deux soirs de Wrestle Kingdom. C'était très plate pour Will Ospreay, qui avait la meilleure histoire du G1. Écoute, il a livré, si vous manquez de temps, là, vous pouvez juste aller piger dans quelques combats. Là. Son combat contre Shingo, c'était absolument fou. La demi-finale contre Naito, c'était de la bombe. Et évidemment, la finale contre Okada, c'était Meltzer a donné
Meltzer a donné 5.5, je pense, à la demi-finale.
5-3 quarts. La demi-finale, 5.5. Finale, 5-3 quarts. Okay. Et c'était... honnêtement, l'un des meilleurs matchs de Will Ospreay depuis 2-3 ans. Il est allé piger dans la banque des adversaires qui ont déjà battu Okada, parce que c'était l'histoire du combat, c'est que Will Ospreay n'avait jamais battu Okada sans aide. La seule fois que c'est arrivé en simple, c'est parce qu'il y avait eu des interventions de United Empire. Donc, il allait dans « ceux qui ont déjà battu Okada, je vais aller apprendre de eux ». Donc, Ospreay...
Il a fait un V-Trigger, il a essayé de faire un One Wing Angel d'Omega. Je ne sais pas s'il est allé jouer dans d'autres...
Il a fait le High for Life Flow de Tanahashi, okay. Il a fait le Styles Clash d'AJ Styles. Tu sais, il était allé vraiment large et les gens, ils croyaient que Ospreay allait gagner. Et finalement, je pense un quatrième Rainmaker du combat finit par fermer les livres. Et c'est un peu plat pour nous parce que Ospreay s'en vient à Dynamite la semaine prochaine avec Aussie Open. Il participe au tournoi des ceintures par équipe de 3. Donc, on aurait pu avoir un Ospreay avec la valise du J1, le championnat US et l'espèce de torse bombé. Tandis que là, il va arriver après une défaite contre Okada. Je ne sais pas s'ils vont le mentionner ou le travailler dans les histoires. Parce que là, dans le fond, la présence d'Ospreay pour nous, il va peut-être faire une petite séance en Amérique en même temps. Il va avoir plusieurs combats dans d'autres fédérations. Ça veut aussi dire qu'on prépare peut-être le terrain pour un Forbidden Door 2 l'année prochaine. Et aussi la présence de lutteurs de All Elite à Wrestle Kingdom.
À Wrestle Kingdom, c'est ça. Il y a des grosses rumeurs là-dessus qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs gens du roster qui soient absolument là. Présentement, on n'a aucune idée. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de voir la longueur de ces excursions-là au Japon quand tu as un show à toutes les semaines... À la télé aux États-Unis. Tu sais.
C'est ça qui va être embêtant. La beauté dans l'élite, c'est que ça arrive quand même souvent que des lutteurs sortent quelques semaines, reviennent.
C'est vrai.
À cause de la profondeur. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on sait que la relation est quand même saine entre les deux. Ça va pas bien entre la New Japan et Ibushi. Ibushi et Omega, on sait qu'ils sont très, très, très proches. Y aurait-il une façon de faire un échange de talent pour qu'Ibushi vienne en Amérique ou qu'Ibushi soit un émissaire d'All Elite au Japon? Tu sais, on peut spéculer beaucoup. Tout ce qu'on sait, c'est que la porte est vraiment ouverte. Et ça, en termes de spectacle, pour nous, c'est l'idéal. Parce que tu veux voir ça, du va-et-vient, un gros méga show. Tu sais, le prochain Forbidden Door, c'est pas dit qu'ils peuvent pas remplir le Madison Square Garden avec ça. Au lieu de le faire à Chicago dans leur vieille pantoufle, ils pourraient essayer de prendre un risque. Le prochain Forbidden Door pourrait être au Japon. À la limite, ça pourrait être un aller-retour entre les deux. Donc, tu sais, il y a vraiment un beau terreau là-dessus. Et quand là, on sort du J1 et Ospreay vient la semaine d'après en Amérique, après un mois vraiment intense de J1, c'était quand même assez solide comme J1 côté violence de combat, côté physicalité. Donc, tu sais, pour que les lutteurs veuillent faire ça, c'est parce qu'ils veulent le travailler, ils veulent faire de quoi de gros, puis c'est nous autres qui veulent en bénéficier, puis on se replogue parce qu'on aime ça, mais on le présente à RDS2, ce combat-là. Will Ospreay débarque en Amérique après le J1.
Yes.
Dans ce qui va être un combat complètement débile, on s'entend, là, il affronte Death Triangle. Donc, si vous ne connaissez pas Will Ospreay, vous allez le voir dans le ring avec Ray Phoenix, qui est probablement, lui aussi, un des meilleurs lutteurs au monde présentement. Donc, tu as deux des cinq meilleurs lutteurs au monde. Comme faites votre liste comme vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de top 5 qui n'a pas Ray Phoenix et Will Ospreay dedans présentement. Et là, ils vont se croiser d'une manière ou d'une autre dans un ring de All Elite à la télé. Ça va être fou braque.
Sans oublier Kenny Omega, qui est aussi qui a fait son retour cette semaine, oui. qui est dans le tournoi trio avec les Young Bucks, qui sont... on s'entend les favoris pour remporter le tournoi, même si tout peut arriver. Donc, De très bonne lutte qui s'en vient bientôt sur les ondes de RDS.
On est sur
excitant.
Hey, localement, on est allé voir la AWS, c'est la semaine dernière ou la deuxième semaine?
L'Olympia.
À l'Olympia, super, super bon show.
Écoute,
ça a été une belle soirée.
C'est le fun de voir que la pandémie n'a pas coupé les reins des fédérations.
Ouais.
Parce que tu passes une couple d'années sans avoir de vrais revenus, sans pouvoir faire de show carrément. La plupart des fédérations au Québec ont juste tiré à plug. Et c'est le fun de les voir revenir, non seulement comme en santé, mais la AWS a rempli l'Olympia de Montréal.
C'est ça, Manny, pour les, comment on dit, pour leur stop, là, ils ont tout mis ce qu'il y avait. Ils sont allés chercher plein d'invités. Joey Janela est venu affronter Speedball. Là, ça a été un super match. Ruby Soho était dans leur combat féminin. Angelo Parker était là, malheureusement sans Daddy Magic parce qu'il était blessé, mais il a traîné son ami Evil Uno avec lui.
Absolument.
Puis c'est ça, dans l'ensemble, ça a été un super bon gala, plein de bonnes luttes. Bon, mais c'était le dernier combat de Manny, qui a eu une grande carrière, qui a été, je pense, très important dans la scène locale, dans la scène hardcore. Qu'on aime ou pas les combats du style fan brings the bring the, bring the weapons, ça a été c'est la conclusion d'une belle carrière. Puis on continue de suivre l'IWS dans les prochains mois là.
Mais non, c'est ça, c'est super en santé. Oui, on pourrait trouver des détails qu'on aime moins, mais moi, l'aspect positif, c'est, regarde, il y a plus que 1000 personnes qui sont allées voir un spectacle de lutte indépendante à Montréal, en plein, c'était les festivités, je pense, la fierté, canicule. Toutes les raisons étaient bonnes pour rester dans la piscine au lieu d'aller voir de la lutte, mais non, les gens se sont pointés. Les gens se pointent à Québec quand la NSP fait des gros spectacles. Les gens se pointent à Saint-Jean-sur-Richelieu pour, je pense, la FML qui... Plusieurs centaines de personnes, donc t'sais, moi, je suis super content. Là. Nous, on aurait été en santé à la télé. La lutte locale est en santé. Donc, on a une communauté là, qui fournit. Là. C'est super le fun.
Tu disais qu'on était chanceux de voir que les fédérations n'ont pas eu tous les reins cassés par la pandémie. Mais non seulement ça, mais c'est ça. C'est le fun de voir que le public ne s'est pas désintéressé, ce qui aurait pu être tout à fait possible. Là, on est des bébites d'habitude, là, tout le monde. Fait que si tu perds ton habitude de suivre la lutte locale, ça se peut que tu ne retrouves pas. Mais visiblement, les gens ont encore soif de lutte, donc tant mieux.
Non seulement les gens.
C'est ça, en fait, cette semaine, c'est Battle War aussi, qui est toujours un excellent show au Fouf.
Moi, j'y étais le mois passé. C'était mon premier gala indépendant depuis la pandémie. Là. C'était vraiment mon espèce de petit retour dans les foules. Moi, le premier, je ne peux pas blâmer aux gens d'être frileux. Je n'allais pas vraiment dans les foules. Là, j'ai dit, je vais aller à Battle War en juillet. Et écoute, ils ont repris. Ben, ça faisait déjà deux ou trois qu'ils faisaient, je pense. Mais c'est exactement la même ambiance qu'on adore. T'sais, les gens ont faim de ça. On a même vu un gaucho essayer de monter dans le ring puis se faire tapocher. Donc, tu sais, c'est... C'est encore cette ambiance électrique-là, là, que c'est Battle War en fin de semaine. On disait que la WWE, SmackDown est à Montréal, mais ils sont aussi à Québec.
Oui.
En allant à Québec, ils vont être impliqués avec des gens de la NSPW. Là, je sais que Marco Estrada va être présent sur place pour rencontrer les gens. Donc, tu sais, c'est plus juste.
Pat et Kevin sont supposés annoncer le show.
Ils vont dire bonjour aux gens dans le ring. Ils vont faire leur podcast en direct. Je pense qu'il y a une espèce d'entrée dans la place Vidéotron. Donc, eux vont pouvoir enregistrer devant le public. Tu sais, c'est en santé. On peut dire que la lutte est mal aimée. Mais il y a quand même des diffuseurs qui donnent leur accord. Il y a quand même des gens qui se présentent, qui se déplacent. Et tu as justement un gars comme Pat Laprade, que ça fait 20 ans qu'il gravite autour de ce milieu-là, a enfin des retombées. Et même, on en parle un peu moins parce que c'est une autre génération, mais Marc Blondin va organiser un gros gala fin septembre, je crois, début octobre, pour lancer sa biographie. Et tu sais, lui aussi roule son balado. Lui aussi a une place à Impact. Ils font les événements payants d'Impact Wrestling. Ils sont même déplacés avec Impact Wrestling pour le faire aux abords du ring. Donc, tu sais, on a beau dire que la lutte, c'est une niche un peu plus marginale, mais elle prend quand même une certaine expansion puis une fidélisation des gens qui se fait. Donc, moi, je suis vraiment content de ça.
Yep.
Puis je pense qu'on va contribuer là, en étant en nom de RDS. J'espère qu'on va aider à améliorer tout ça.
Non seulement ça, mais le retour du petit paquet aussi.
Ben oui, puis là, en personne aussi bientôt, les garçons. Là, on est amené de
Skype, c'est assez.
De ces écrans-là. Là.
Puis il était temps qu'on fasse un nouvel épisode parce que, anecdote bonus pour les gens qui sont rendus jusqu'à la fin, là, ma fille écoute notre épisode sur Scott Hall en boucle depuis. C'est quoi? C'est en mars qu'on l'a fait, que Scott Hall est décédé, je crois. Et je ne sais pas pourquoi. Je fouille moins, mais elle aime ça, écouter nos épisodes, puis il n'y en a pas eu de nouveau. Fait qu'elle fait juste se mettre ça en background quand elle se couche. Ouais. J'ai dû entendre l'intro de notre épisode de Scott Hall minimum 200 fois.
C'est pour ça que tu voulais changer.
Je suis vraiment, vraiment, vraiment tanné d'entendre cet épisode-là. Donc, il faut qu'on en fasse des nouveaux. C'est parce bon. Que ma fille est en train de me rendre fou. Elle est toujours en train d'écouter nos épisodes. Puis là, c'est tout le temps le même en boucle. Fait que les gars, vous n'avez pas le droit de lâcher. Là, c'est pas un retour d'un épisode. Ça m'en prend plus pour ma santé mentale.
Je vais essayer à soir d'endormir mes bébés avec le début de cet épisode-ci. On va voir si ça marche.
C'est une excellente idée. C'est qu'on pourrait descendre notre voix d'un octave juste pour calmez-vous.
Pour être sûr que tu es énorme. Là, moment culturel de fin d'émission. Mathieu, qu'est-ce que tu as écouté cet été? Peppa Pig?
Le mobile des enfants?
La patrouille?
Non, en fait, les enfants n'ont pas encore découvert. Je ne suis même pas sûr s'ils savent que la TV, ça existe. Ouais.
Pour pousser ça le plus longtemps possible.
C'est ça, puis aussi pour notre propre santé mentale, parce que je vois la première fille de mon frère qui a comme 3 ans, puis tu sais, c'est ça, là, c'est impossible de la séparer de Peppa Pig, là, ces affaires-là. Ah, fait que,
c'est épouvantable, Peppa.
Fait que oui, je repousse ça le plus longtemps possible, puis sauf que c'est ça, c'est que le temps disponible pour la culture est assez limité, ils vont faire des choix déchirants, des choix qui ne sont pas toujours bons, notamment.
Les enfants auront tué l'homme de culture en toi?
Ben, pas tout à fait.
Les films 5 étoiles?
Ouais, ça fait longtemps, par exemple. T'sais, pour te dire, notre choix culturel des dernières semaines, c'était Les Honorables, la série là, avec Patrick Huard qui fait un juge. Tu sais, quand tu repenses à Série Noire, là, c'était comme il y avait comme une fausse série de droit dedans. C'était comme le droit de la justice. Là.
Oui.
Mais ça, c'est comme le droit de la justice, la loi de la justice, mais en vrai. Enfin, par TVA. Mais bon, un de mes amis joue dedans. Puis on voulait l'encourager. Là, à chaque fois qu'il était dans les scènes, on était comme OK, ben ça au moins cette scène-là est bonne parce que Oli est là, mais sinon, ben c'est pas ce que j'ai consommé de mieux en termes de culture ces dernières années.
Stéphane, sauve-nous si tu fais quelque chose.
Écoute, je vais vous sauver. J'ai écouté de quoi hier qui je pense que c'est ma série préférée de l'été, c'est The Bear. Nous, on l'a sur Disney+, mais c'est une série de FX. Écoute, là, une belle série d'auteurs un peu là, sur un restaurateur d'exception qui reprend la business familiale. Mais tu sais, c'est filmé comme un film indépendant avec dialogue. Tu sais, ils te lancent dans le creux, là, ils te prennent zéro par la main, ils t'expliquent pas du tout c'est quoi les personnages. Fait que c'est super quirky, c'est un peu dark, un peu comique. J'ai dévoré les deux premiers épisodes. J'étais comme, oh, OK, on est une petite coche en haut. Puis c'était comme une première série qui n'était pas du cinéma. Tu sais, je vois quand même au cinéma souvent. J'encourage beaucoup le cinéma local. Ligne de fuite, notamment, est un très bon film québécois à aller voir. Ou celui de Raphaël Ouellette aussi, dont le titre m'échappe, L'Arsenault et
Fils. Archambault, c'est ça.
Arsenault. Qui était quand même Arsenault. Très intéressant. Mais tu sais, côté télé, là, The Bear, belle coche en haut de tout ce qui se fait. Puis c'est des petites demi-heures, donc ça se regarde super bien. Et Disney+, vous allez être surpris. Là. C'est pas juste pour les enfants, parce qu'il y a FX, il y a Stars. Donc, il y a plein de programmation pour adultes.
C'est en train de devenir, pour vrai, un des services de streaming sur lequel il y a le plus de stock.
Ouais, donc, en attendant les grosses séries là, comme House of Dragons puis les trucs à grand déploiement, un petit truc indie, tout filmé dans un resto épaule, ça fait du bien.
Par rapport à ça, je sais qu'ils sont en train de faire l'adaptation cinématographique du roman Le Plongeur de Stéphane Larue. Puis, tu sais, je voyais sur Twitter que des gens disaient, ouais, l'équipe de ce tournage-là doit se sentir un peu scoopée par The Bear parce que semble-t-il que les moments de tension en cuisine rejoignent pas mal ce que Stéphane Larue a écrit.
C'est des Italo-Américains. Fait que, ça crie, ça parle fort, c'est intense, mais tu sens l'amour fraternel en même temps qui se crie après. Non, c'est honnêtement là, une super la belle découverte.
Est-ce que c'est aussi fort que l'amour fraternel qui nous lie tous les trois?
Impossible!
Jamais. Impossible! Même les enfants de Mathieu sont pas assez forts. Pour
ça. Non, c'est ouais, ça. D'ailleurs,
ben, ils parlent de plus en plus fort, là. Par exemple.
On va te laisser aller t'occuper d'eux autres. Merci d'avoir été avec nous autres cette semaine. On vous revient très bientôt. RDS 2, mercredi 20h. Avec Stéphane et Benoît. Puis la lutte locale aussi. Là, je sais pas, il y a Battle Wars ce dimanche.
Si vous êtes à SmackDown, venez dire bonjour. Je vais traîner quelque part, je ne sais pas où, mais quelque part.
Puis tu vas leur grogner un bonjour back. Là, tu ne m'auras pas pour être sympathique.
Ben là, en fait, j'y vais avec ma douce, donc c'est elle qui va être mon côté sympathique.
Oh, c'est elle qui va être pognée pour jaser avec le dos d'un
Absolument.
Côté.
Absolument. C'est elle, le small talk, c'est pas moi.
OK, merci beaucoup tout le monde, Mathieu. Embrasse l'écurie pour nous.
Ben, certain. Grand plaisir d'avoir trouvé les boys.
J'adore ça, ce nom-là, l'écurie. Je vais m'en souvenir.
C'est parti.
Tout le monde, là.
Ciao tout le monde.
Ciao.